La foi nous 13. Pourquoi la foi fonctionne pour certains et pas pour d'autres. Le 2 juillet 2017. Brian Kozurek, pasteur. Avant de commencer ce matin, je voudrais remercier Frével pour l'inspiration de ce message et pour le titre du message d'hier soir. Certaines pensées que j'apporte ici viennent d'un sermon intitulé « La confession négative » qu'il a prêché en 1965. C'était l'un de ses grands sermons sur la foi qu'il prêchait jadis. En ces jours-là, mais c'était toujours très approprié pour nous en cette heure. Maintenant, nous parlons de la foi, et nous avons étudié la foi de Jésus de Gethsémané à la croix. Et dans cette étude, nous avons constaté que sa foi se fondait sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu avait promis, et c'était ça sa foi. Et donc, nous allons aussi étudier dans ce message, la fondation de notre foi et c'est-à-dire la parole de Dieu, ce qu'il a promis. Et rappelez-vous, nous avons prouvé qu'il importe peu ce qu'est-à-dire la mesure de foi, parce qu'il n'y a qu'une seule foi parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. En fait, frère Branham a dit dans son sermon, les oins du temps de la fin 65-07-25-256 maintenant, remarquez, c'est-à-dire Jésus qui parlait. 257 et voici Paul, tout de suite après lui, qui dit, maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. Et ils se demandent, ils disent, pourquoi est-ce ce que vous rouspétez après les femmes? Oh, bonté! Mais, il n'y le voit même pas. Il captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de passions de toute espèce, loin des choses, comme, de, vous voyez, et, de même que Jannès et Jambrès. Matthieu 24:24. Des faux Christ, des faux oins, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Or, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même, d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Pas une foi. La foi. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Vous n'y pouvez pas avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous n'y pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. Un seul baptême, Jésus-Christ. C'est-à-dire vrai. Vous voyez, un faux baptême. Et donc cette seule foi, c'est-à-dire la foi que Dieu avait dans sa propre parole quand il créait le monde. Par conséquent, si nous pouvions juste nous brancher sur la pensée même de Dieu, nous n'aurons pas à nous inquiéter de la quantité de foi que nous avons, aussi longtemps que nous avons capté la pensée de Dieu. Mais ce matin, nous voulons répondre à la question, pourquoi la foi semble-t-elle marcher dans certains et pas dans d'autres? Maintenant, nous savons que la Bible enseigne clairement que nous avons tous reçu une mesure de foi. Et puisqu'il n'y a qu'une seule foi, alors cette mesure de foi, peu importe ce qu'est-ce cette mesure, c'est-ce une foi parfaite. Puisque c'est-ce la foi de Dieu. Mais le problème repose dans le fait que cette foi parfaite est-ce placée dans des vases imparfaits. C'est-ce comme quand nous voyons une lumière s'éteindre. Le même courant fonctionne toujours dans les autres ampoules, mais c'est-à-dire juste une seule ampoule qui semble s'éteindre. C'est-à-dire parce que cette ampoule était plus faible que les autres. Mais le courant n'y change pas, ni la foi. C'est-à-dire le plus faible vase qui fait que le courant n'y fasse pas ce qu'elle est censée faire. Ainsi, il nous faut examiner ce problème parce que nous avons tous des faiblesses dans nos vases. Sister, pourquoi nous sommes venus sur la terre dans ces vases? Pour être testés. Ainsi, le vase Esther ce qui fait vaciller votre foi. Quand frère Branham a parlé du signe, il a dit qu'un signe Esther une preuve que le prix a été payé. Par conséquent, c'est Esther l'assurance d'avoir cette chose qui a été payée. Et la foi Esther l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration ou la preuve des choses qu'on n'y voit pas encore. Ainsi, la mesure de votre foi, c'est votre assurance divine que vous pouvez obtenir chaque promesse dans la Bible qui s'applique à vous. Maintenant, ce pourquoi la plupart des gens sont très pauvres en ce qui concerne les bénédictions de Dieu, c'est en raison soit des imperfections dans leur vase, soit leur ignorance de ce qu'ils possèdent vraiment, soit encore leur incapacité à utiliser ce que Dieu leur a donné. Ce matin, pour commencer notre étude, allons dans nos Bibles à Genèse 25:27-34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Maintenant, le mot tranquille Esther une traduction erronée, parce que le mot hébreu, Esther, Tam, Kinemi signifie pas tranquille, mais plutôt complet, ou parfait, comme non souillé ou non corrompu. Ainsi, nous voyons que Jacob n'était pas corrompu ou souillé, ce qui suggère qu'Ésaü l'était. 28 Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. 29 Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 30 Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. 31 Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32 Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33 Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Esther ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Maintenant, voici un bon exemple d'une confession d'incrédulité. Afin de mieux comprendre ce qui se passait dans la pensée d'Ésaü, nous devons comprendre qu'au chapitre 26:1, on nous dit qu'il y avait une famine dans le pays, et c'est Esther ce qui a fait qu'Ésaü a parlé de cette manière. Ésaü n'était pas juste un homme négligent qui ne se souciait pas de son droit d'aînesse. Si c'était le cas, il n'aurait pas été si fâché contre Jacob de lui avoir pris les bénédictions qui vont avec. Non, Ésaü a été élevé dans la même foi que Jacob, et il voulait ce droit d'aînesse. Mais il était sur le point de mourir de faim, et dans sa pensée, il pensait qu'il valait mieux manger et vivre que de s'accrocher à son droit d'aînesse, puisque ce droit ne lui ferait aucun bien s'il était mort. Dieu avait donné à Ésaü une épreuve de sa foi, et sa réaction était en réponse à des conditions très dures et désespérées qu'il traversait. Maintenant, une famine signifiait qu'il n'y avait pas de pluie, et s'il n'y avait pas de pluie alors il poussait très peu ou pas du tout de végétation. Maintenant, vous pourriez dire, oui, mais Ésaü n'était pas fermier, il était chasseur. Et c'est vrai, mais quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas aussi de végétation pour les animaux, et les animaux doivent émigrer de plus en plus loin afin de trouver le peu de végétation qu'ils peuvent trouver. Ainsi, Ésaü avait parcouru une grande distance, et ce, depuis des jours, sans nourriture et peut-être avec très peu d'eau, et le corps Némi peut pas faire grand chose sans nourriture et sans eau. En fait, le corps devient très faible à ce moment-là, Et c'est-elle l'image que nous voyons dans Genèse 25, où Ésaü est rentré dans le camp et la Bible dit qu'il était accablé de fatigue, ce qui signifie qu'il était très affaibli par la soif et par la faim, et il délirait légèrement quand il est rentré dans le camp. Est-on déshydraté et faible? Quand il a senti la nourriture que Jacob se faisait cuire, il était peut-être hors de lui-même à cause de la faim et de la soif. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est l'image d'un homme qui est si désespéré de manger que dans sa pensée il croyait qu'il allait mourir. Mais l'effet était qu'il avait la promesse du droit d'aînesse, et Dieu avait fait cette promesse à Abraham que sa semence, ou progéniture, se multiplierait comme les étoiles du ciel. Ainsi, Ésaü, au lieu de regarder à ce que Dieu disait de son épreuve, il a regardé aux circonstances qu'il pouvait voir, goûter, ressentir, sentir avec le nez et entendre avec les oreilles. Ésaü était un homme de la terre, très primitif, et il était très en accord avec sa chair, mais il y avait des promesses que Dieu avait faites qu'il oubliait ou ignorait, parce qu'il était concentré sur les circonstances autour de lui et pas sur la promesse. Et ainsi, Ésaü, s'est concentré sur les circonstances de l'épreuve devant lui, a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? En d'autres termes, quel bien cela me fait-il? Je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce ce que j'en retire? Et c'est à ce moment-là qu'il est mort spirituellement. C'est à ce moment-là qu'il a prouvé quelle semence il était. Et c'est pourquoi Dieu a Ésaü et a aimé Jacob. Quand une personne dit, quel bien est-ce ce pour moi de donner et de donner et de donner? Qu'est-ce ce que j'en retire? C'est à ce moment précis que vous échouez. Frère Branham a dit que notre motif doit être juste pour que notre foi marche. Dans son sermon La Reine de Sebadim 19 février 61-8 il a dit, je me rappelle toujours, ô Église, les paroles de Dieu sont vraies. Je crois qu'une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu la fera s'accomplir, si vous pouvez regarder cela de la bonne manière. Mais rappelez-vous, voici mon étalon dans la vie. J'ai essayé de faire ceci. La première chose, j'aime découvrir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Cela. Je sais donc que c'est la volonté de Dieu. La chose suivante, c'est mon objectif par rapport à cela et mon motif en faisant cela. Si c'est donc la volonté de Dieu et que mon objectif est correct, ainsi que mon motif, j'ai la foi que cela se fera. En effet, premièrement, c'est la volonté de Dieu et j'ai, et mon objectif, c'est de le glorifier. Et mon motif, c'est de lui donner toute la gloire. Voyez, il n'y a donc pas de motif égoïste en cela. Si vous avez un motif égoïste, cela ne marchera pas. Si votre objectif, c'est de faire de l'argent pour vous-même ou quelque chose comme cela, eh bien, vous n'aurez jamais de succès. Et alors, essayez de faire quelque chose en dehors de la volonté du Seigneur. Cela ne marchera donc pas pour commencer. Il y a donc une foi authentique, mais vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi authentique. Il y a une foi humaine, il y a aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir la foi divine pour croire. Maintenant, pour avoir donc la foi divine, il vous faut avoir la pensée de Christ en vous. C'est ainsi que Dieu vous donnera des visions, des révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. Comprenez-vous cela? Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Mais Ésaü a prouvé que son motif pour le droit d'aînesse était complètement égoïste. Et ce n'était pas pour plaire à Dieu. Ni son motif de rester avec le droit d'aînesse, parce que cela signifiait accomplir le rôle de chef tribal avec toutes les responsabilités de conducteur, impliquant beaucoup d'autres vies de la tribu. Non, tout ce qu'il pouvait voir, c'était sa propre situation. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était ses épreuves. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était les circonstances l'entourant à ce moment-là, et comme son centre d'intérêt était mauvais, il a échoué. La divinité expliquait 61-085B84 et vous devez tester votre motif et votre objectif. D'abord, trouvez la volonté de Dieu. Et ensuite trouvez votre objectif. Et ensuite testez votre motif pour voir si votre motif est bon. Alors, comme Jésus l'a dit dans Marc 11.24, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous n'avez mis, doutez pas dans votre cœur. Mais tant que vous avez du doute dans le cœur, à savoir si oui ou non c'est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou que votre objectif sont faux, comment est-ce ce qu'elle bougerait? Mais quand vous savez que votre motif est juste, et que c'est la volonté de Dieu, et que votre objectif est juste, elle doit bouger. Voilà tout. Sinon Dieu aurait dit quelque chose de faux. Hébreux 12:15-17 nous dit, veillez à ce que nul n'ait mis sous prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, n'ait mis produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, c'est à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Ce mot profane signifie le mépris ou l'irrévérence envers ces choses qui sont sacrées, et c'est ce que Dieu considérait comme Ésaü, qui pour un avant dit son droit d'aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir n'ait pu avoir aucun effet. Écoutez, on nous dit qu'il a cherché à se repentir, il la sollicita avec larmes, mais cela n'avait pas d'importance aux yeux de Dieu. Maintenant, les gens essaient de dire qu'Ésaü était juste indifférent envers le droit d'aînesse, mais ce n'est pas ce que nous dit la Bible. L'homme a versé des grandes quantités de larmes, et il a essayé avec soin et avec un grand effort de regagner ce droit d'aînesse, mais cela n'aimait lui appartenait plus. Il l'avait cédé. Et plus tard, quand il a compris ce qu'il avait fait, c'était déjà trop tard. Dieu avait une grande bénédiction, et non une malédiction, pour cet homme, et il l'a rejeté. Et l'apôtre Paul nous met en garde dans Hébreux 10:35 « N'abandonnez donc pas votre assurance, votre foi et votre confiance en Dieu à laquelle est attachée une grande rémunération. » Tant de gens sont comme la parabole que Jésus nous raconte dans Marc 4:5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'y trouva pas un sol profond. 6. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Il faut que la parole de Dieu soit profondément plantée dans le cœur, non dans le sol peu profond de la pensée. Et Jésus nous en donne la signification au verset 14 « Le semeur sème la parole ». Et au verset 16, Jésus nous parle des semences plantées dans des endroits pierreux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. 17 Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et cette expression occasion de chute vient d'un mot grec qui signifie inciter à pécher ou à n'aimer pas croire. Ainsi, nous voyons qu'il y a ceux dont la chair est terre faible, et ils disent croire, mais quand ils sont testés quant à leur croyance, ils n'atteignent pas le but, et Néhémie peuvent pas tenir bon jusqu'au bout. Ainsi, nous voyons que la récompense est liée à votre assurance. Le niveau de confiance que vous avez en Dieu et en sa parole. Et Paul nous dit qu'à moins que nous tenions ferme notre assurance dans la promesse, jusqu'à la fin, nous ne recevrons pas la récompense. Hébreux 10h36 car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Maintenant écoutez. C'est une promesse de Dieu. Il a dit qu'il ne tardera pas. Il apportera la récompense, mais il dit vous devez avoir la persévérance ou la patience. Et la personne qui n'estère pas assez patiente, pour attendre une ne recevra pas la récompense. Et la patience estère une marque de maturité, et de confiance. Puis Paul continue et dit, 38 et mon juste vivra par la foi. Et nous savons que la foi estère une révélation. C'est-à-dire quelque chose qui vous a été révélé, mais, s'il se retire, mon âme Néhémie prend pas plaisir en lui. 39 Nous Néhémie sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si vous devez gagner au jeu de Dieu, soit vous aurez la patience d'attendre, soit vous serez perdant à la fin. Dieu Néhémie s'intéresse pas à des petits enfants gâtés, pourris, et immatures qui pleurent constamment et qui doivent tout avoir maintenant. Il vous fait attendre les promesses. C'est ainsi qu'il teste votre foi dans la promesse. Pour voir si vous êtes disposé à l'attendre. Maintenant, la plupart des chrétiens sont simplement trop suffisants. Quand on vient à ce qu'Ésaü a fait, ils disent, j'aurais attendu. J'aurais cru que Dieu ferait quelque chose pour cette famille, à qui il a promis qu'elle serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Eh bien, un jour beaucoup de chrétiens vont faire face à la même scène qu'Ésaü, et ils seront confrontés à une épreuve très semblable. Dieu a déjà promis dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 qu'il y aura un boycott et que vous Néhémie pourrez ni acheter ni vendre. Donc vous Néhémie pourrez pas manger à moins que vous Néhémie preniez la marque de la bête. Alors quoi? Que vont-ils faire alors? Oui. L'épreuve prouvera à ce moment-là ce qu'ils sont. Ça c'est sûr. Et combien de personnes, pour un morceau de viande, vendront leur âme au système dénominationnel, et ce faisant, prendront la marque de la bête? Mais la plupart des gens qui prétendent croire le message diront, je serai dans l'enlèvement alors cela Néhémie m'affectera pas. Comment savez-vous que vous serez dans l'enlèvement? Et comment savez-vous que lorsque la pression viendra, vous Néhémie passerez pas ce moment-là par quelque chose de très semblable à ce qu'Ésaü a enduré? Sans nourriture? Les gens font des choses étranges sous la pression. Regardez combien de millions de juifs ont été tués en Allemagne, tandis qu'une soi-disant bonne nation chrétienne regardait de l'autre côté. Ils ont vendu leurs droits d'aînesse que Luther avait gagné pour eux, pour deux misérables poulets dans la marmite, et une voiture dans chaque garage. L'Amérique a fait la même chose. Après la dépression, quand Roosevelt leur a offert un issue de secours, les Américains ont brisé la Constitution et ont élu l'homme pour 4 mandats successifs. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse comme nation, pour une gamelle de potage. Nous n'avons même pas idée de ce qui va venir sur la terre. Frère Branham a dit qu'il viendra quelque chose de si horrible qu'il Néhémie pouvait même pas en parler, parce que les gens Néhémie pourraient pas le supporter, s'ils le savaient. Il a dit à son propre fils Millipol qu'il Néhémie pouvait pas lui dire ce qui allait venir sous le sixième sceau, parce que s'il lui disait, il Néhémie dormirait plus le reste de sa vie. Alors soyez préparés, parce que cette chose dont il Néhémie pouvait pas parler, Esther certainement en route. Ainsi, Que signifie confesser l'incrédulité en Dieu? Pour confesser l'incrédulité en Dieu, vous devez d'abord admettre les conditions autour de vous. Cela signifie que vous reconnaissez les conditions et les conclusions logiques de cette condition, au lieu de ce que Dieu a déjà dit de la conclusion de cette condition. Ésaü a confessé les conditions, il y a une famine. Et en effet, il y avait une famine. Il a dit, j'ai chassé et il n'y a pas de nourriture. Et il avait absolument raison. Il a dit, je suis faible et je vais mourir. Et c'était aussi absolument correct au vu des circonstances. Toute sa pensée était tellement rationnelle, parce que si vous n'avez mis mangez pas vous êtes affamé. Et si vous êtes affamé, vous finirez par mourir. Et puis si vous mourrez, alors en quoi la promesse est-elle bonne pour vous? Est-ce la manière raisonnable de penser? Si vous n'avez mis pensez pas comme Dieu pense. Mais Dieu n'aime veut pas que nous pensions comme les hommes. Il veut que nous pensions comme il pense. Et c'est-ce pourquoi il est si disposé à donner la pensée de Christ à ceux qui la veulent. Dieu a dit dans Proverbe 16:25 « Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et il a aussi dit dans Esaïe 55:7 nous lisons, « Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui Néhémie se lasse pas de pardonner. Oui, car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voix Néhémie sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. 11 Ainsi en est stérile de ma parole, qui sort de ma bouche, elle n'y retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi, Dieu nous a promis que sa parole produira exactement ce pourquoi il l'a envoyé. Nous voyons aussi dans Genèse 15:1-6, que Dieu avait fait une promesse à Abraham d'être non seulement celui qui pourvoit pour lui, mais aussi d'être son protecteur, car à quoi bon recevoir la récompense, si vous n'aimiez pouvez pas vous y accrocher, ou si vous la perdez. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, n'aie crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Je suis ton protecteur et celui qui pourvoit pour toi. Crois en moi. » 2 Abraham répondit, « Seigneur Éternel, si tu es mon protecteur et celui qui pourvoit pour moi, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » 3 Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » 4 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Remarquez que Dieu n'a pas posé d'acte pour Abraham. Dieu a donné à Abraham sa parole. Abraham a dit, « Je me fais vieux Seigneur, et tu m'as promis une semence, et je n'ai encore personne si ce n'est Esther cet homme-ci, qui est Esther mon serviteur, et si je n'ai pas ce que tu as promis, il deviendra mon héritier, parce que je n'ai pas encore reçu ce que tu as promis. » Abraham cherchait des actes de la part de Dieu, mais Dieu lui a juste donné sa parole. Mais il a dit à Abraham que sa parole était encore à venir. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera, au futur, ton héritier. 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera, au futur, ta postérité. Si Abraham eut confiance en l'Éternel, alors à quoi est-ce qu'Abraham a eu confiance ou a cru? Il a cru la parole de Dieu, pour lui, c'est-ce qu'il a cru, qui Dieu le lui imputa à justice. Ainsi, nous voyons que la promesse à Ésaü était à travers Abraham, et c'était que, par la semence d'Abraham, la lignée deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Par conséquent, il avait une promesse qu'il n'y mourrait pas, car Dieu a dit, « Cette promesse Esther pour toi et ta semence est près toi. Et je suis ton protecteur, je suis présent pour veiller à ce que tu reçoives ta récompense. Et tu n'y mourras pas, mais tu vivras, et ta semence serait comme le sable de la mer. » Et Ésaü a vécu assez pour regretter de n'y pas avoir cru en Dieu. Et Dieu a haï Ésaü. Mais qu'en est-il de Jacob? Il a fait face à la même famine qu'Ésaü. On n'y nous dit pas quelle quantité de nourriture il lui restait, mais sa n'y pouvait pas être beaucoup, étant donné qu'ils étaient tous confrontés à la même famine. Mais il a choisi d'avoir ce droit d'aînesse, même s'il devait renoncer au dernier plat qui lui restait. Tout comme la veuve de Sarepta, qui était arrivée à son dernier repas, et elle et son fils se préparaient à faire leur dernier gâteau et à mourir, parce qu'il y avait aussi une famine dans le pays, et alors Eliezer a rentré en scène. Un roi 17, un Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel Esther vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il avait l'esprit de Christ en lui, alors il croyait que ce que vous demanderez, si vous ne m'y doutez pas dans votre cœur, vous aurez ce que vous avez demandé. 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots, trois pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est terre en face du Jourdain. 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est terre en face du Jourdain. 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. 7. Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressant ces mots, 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors comment est-ce que Dieu a ordonné à cette veuve de nourrir Élie? Il lui donna un cœur pour le peuple de Dieu. 10. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » 11. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » 12. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est-ce vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, qui signifie la crucifixion. Je suis crucifié avec Christ. Quoique je vis, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. 13. Élie lui dit, Néhémie crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui estère dans le pot Néhémie manquera point et l'huile qui estère dans la cruche Néhémie diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 16 La farine qui était dans le pain Néhémi manqua point, et l'huile qui était dans la cruche Néhémi diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Maintenant, que serait-il arrivé si cette femme avait été comme Ésaü et avait dit, « Il n'y en a pas assez pour partager avec toi. Alors fiche le camp, jeune homme. » Elle aurait mangé son dernier gâteau et serait morte. Mais elle avait foi dans la parole du Seigneur qui lui est adressée par le prophète de Dieu. Et elle était prédestinée à le faire. Car Dieu avait dit à Élie, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Maintenant, je n'y crois pas une seule seconde qu'elle ait entendu la voix audible de Dieu lui ordonnant de nourrir Élie. Mais Dieu avait placé dans son ADN une croyance dans la parole du Seigneur et dans les prophètes de Dieu qui la portaient. Elle était prédestinée à cette épreuve, et Dieu l'avait préparée à cela. Et sa farine et son huile les ont nourris, elle, son fils Élie, pendant beaucoup de jours jusqu'à ce que la sécheresse ait pris fin. Mais qu'en est stérile d'Ève? Elle a rejeté la parole de Dieu pour ce qui semblait être de la nourriture, quelque chose à manger pour rendre quelqu'un sage. Mais, que nous dit la Bible au sujet de Moïse? Il a rejeté les trésors de l'Égypte pour garder la parole de Dieu. Et ainsi, nous voyons que Dieu Néhémie veut pas que nous parlions et évaluons les conditions de la vie, et considérons leur fin logique. Il veut que nous regardions une seule chose et s'estère sa parole. Il veut que nous regardions seulement à ses promesses, et à là où elles nous conduisent. Nous n'aimons et devons pas être négatifs dans notre confession mais positifs. Louons Dieu pour ce qu'il a promis. Nous avons même lu une citation, il y a quelques semaines, où frère Branham a dit que vous n'aimez, devez pas déclarer vos conditions, mais dites seulement ce que la parole de Dieu en dit. Les résultats de la décision Sam 8 octobre 55-24 nous voyons que souvent les gens se fient à leurs symptômes. Après que l'on a prié pour eux. J'allais chercher le rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens ont quitté hier soir avec vraiment. Après toute une semaine d'enseignement évangélique sur comment être guéri, ceux qui s'en sont allés, disant, eh bien, j'ai toujours cela. Voyez? Et vous aurez probablement toujours cela. Voyez? Si vous avez ces pensées-là. La foi n'y regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit. La foi n'y regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux symptômes. Vous dites, eh bien, frère Branham, s'ils sont là, Néhémie devrions-nous pas dire qu'ils sont là? Non. 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 Christlin 21 février 55 49 Esters. Vous n'utilisez pas vos propres pensées, vous utilisez ses pensées. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Voyez? Pensez selon sa manière de penser, dites ce qu'il dit. La confession signifie dire la même chose. Dire. Confesser, c'est-à-dire confesser la même chose, dire la même chose. Alors Néhémie confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de nouveau et confessez sa parole. Confessez ce qu'il a dit. C'est-à-dire ça la confession. Dites, c'est-à-dire par ses meurtrissures que je suis guéri. Par ses meurtrissures, j'ai le droit par ses blessures. Maintenant même, j'ai droit au salut. J'ai droit au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il a dit, c'est-à-dire en vous, et en vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je le crois. C'est-à-dire pour n'importe quelle génération. Voici, je suis avec vous pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Il est mort afin qu'il puisse ressusciter et être avec son Église tout du long jusqu'à la fin du monde, pour confirmer la parole par des signes qui accompagnent. Combien de temps cela devait-il continuer? Allez. Cela a-t-il pris fin avec les apôtres? Marc se dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'est pas encore là. On n'est qu'au tiers presque. Dieu compte sur nous. Et dans son sermon, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi 53-0216p, d'ici il a dit, écoutez attentivement. Vous n'ayez mis vivrez jamais au-dessus de votre confession. Jésus Esther le souverain sacrificateur de notre confession Esther ce que c'est vrai. Maintenant. Hébreux 3, 1 maintenant n'importe quel érudit sait que le même mot, profession s'ester confession aussi. Le même traduit. Maintenant assis à la main droite du Père, pour faire des intercessions sur base de quoi? Notre confession. Il n'est mis peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous confessiez d'abord qu'il l'a fait. Vous voyez? Le problème ester que nous n'ayons mis, prenons pas suffisamment Dieu au sérieux. S'il vous a donné une promesse, alors il viendra à bout de ce qu'il a promis. Mais nous vivons dans la Odyssée, et nous pensons avoir le droit de penser tout ce que nous voulons penser et de dire tout ce que nous voulons dire. Mais je suis ici pour vous dire ce matin, faites-le et vous n'irez pas dans l'enlèvement. Cester ainsi dit le Seigneur, parce que cester ce que le Seigneur a déjà dit. Dieu a dit dans Proverbe 16h25 telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ainsi, continuez à vous plaindre de Néhémie pas recevoir la promesse au moment où vous pensez que vous devez la recevoir. Mais la Bible dit, ceux qui sont disposés à attendre la promesse sont ceux qui recevront la récompense. Je peux m'imaginer Sarah dire à Abraham, combien de temps devons-nous encore attendre? Chérie? Nous avons déjà attendu 20 ans. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a dit, prends ma servante et un bébé avec elle, et nous pourrons dire que c'est la promesse que Dieu nous a faite. Pensez-vous que Dieu était content de ça? Aucunement. Pensez-vous que Dieu était content de la déclaration de l'épouse d'Abraham? Je vais vous dire quoi. Cela a tellement irrité Dieu, qu'il a dit à Abraham de faire selon le plan de Sarah. Et la semence d'Abraham, par Sarah lutte pour leur vie contre la semence d'Abraham par Agar. Depuis plus de 4000 ans maintenant. Et Esther ce que cette attitude négative, qui a produit cet Ismaël, trouvera-t-elle finalement la paix? Pas jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, car cette semence Néhémie sera pas là. Et puis après avoir attendu 25 ans pour recevoir la promesse, Dieu l'a testé et lui a demandé d'offrir son fils. Que ferez-vous dans cette situation? Mais Abraham n'a pas regardé aux circonstances. Il a juste regardé à la parole de Dieu. À ce que Dieu a promis. Et ainsi il a dit, le jeune homme et moi monterons offrir l'holocauste et nous reviendrons. Il a eu un témoignage tout comme Job, voici il me tue. Mais je lui ferai confiance. Et je verrai Dieu dans ma chair. Abraham savait que si Dieu lui permettait de tuer son fils, Dieu serait dans l'obligation de le ressusciter. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi Dim, 21 janvier 62 et 134 comment? Quand vous recevez la promesse, comment allez-vous arrêter la chose? Comment allez-vous? E135 comment allez-vous donc vous attendre à devenir le père des nations? Alors que vous avez maintenant 115 ans? Abra. Le petit Isaac a environ 14 ou 15 ans. Comment allez-vous devenir le père des nations alors que vous avez 115 ans? Voici votre unique fils. Et vous allez détruire l'unique preuve que vous avez. Amen. E136 comment vais-je m'y prendre si je sors de mon organisation? Comment vais-je m'y prendre si je fais ça? Oh! Écoutez ce murmure doux et léger qui vient avec la parole. La parole. E137 vous direz, J'ai entendu une voix me dire ça. Si c'est stère contraire à la parole, ce n'est stère pas la voix de Dieu. La voix de Dieu vient avec la parole. La foi mère 15 août 56 80. Et puis, quand vous recevez la promesse, appelez tout ce qui est stère contraire à cette promesse-là comme n'existant pas, et Dieu fera s'accomplir cela. Et qu'en est stérile de Noé? Il a prêché son message pendant 120 ans et a construit l'arche pendant cette même période. Et s'il avait dit, vous savez, je construis cette arche depuis 100 ans et il n'y a toujours pas de signe de pluie, alors je pense que je vais juste m'arrêter. Pensez-vous que cela aurait empêché la pluie de tomber? Et qu'en est stérile d'Israël? Dieu leur a promis que le Messie viendrait et ils ont attendu plus de 4000 ans sa venue. Mais je crois vraiment que bon nombre d'entre eux n'y croyaient plus la promesse, parce qu'ils l'ont attendu si longtemps, et c'est pourquoi beaucoup l'ont rejeté quand il est venu. Et l'Église aujourd'hui, pensez-vous que l'Église chrétienne croit vraiment que le Seigneur revient? Il prouve qu'Néhémie ne le croit pas en rejetant son apparition avant sa venue. Et pourquoi Néhémie croit-il pas? Parce qu'ils ont dû attendre très longtemps l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'influence d'Im 15 mars 64-198. Jésus leur a promis qu'il leur enverrait la promesse du Père, Luc 24.49. Voici, j'enverrai la promesse de mon Père sur vous. Mais vous, attendez. Attendre Néhémie veut pas dire prier, cela veut dire juste patienter. Attendre veut dire patienter. Patientez-là dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et s'ils étaient sortis après 10 ou 20 jours? Non. Ils devaient attendre 50 jours. Un jour de moins et il leur est manqué. Shalom Dim 19 janvier 64-111, certaines personnes disent, mais, frère Branham, j'ai essayé et essayé. Eux sont douces mais attendez une minute. La patience est une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. Ceux qui se s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. E 113 vous dites, comment puis-je attendre davantage? Continuez simplement à attendre. Après que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour supporter, alors supportez, voyez, supportez simplement. Comment vais-je m'y prendre? Supporter. Il a dit que c'est la vérité. Et c'est la vérité. Il a dit que cela arrivera. Comment? Je n'ai aimé le sait pas. Mais cela arrivera. Il l'a dit. Il l'a promis. S'il l'a promis, cela arrivera. C'est tout. Il n'est aimé peuvent pas attendre. E 114 ainsi donc, rappelez-vous simplement, Dieu a pris des milliers d'années pour accomplir sa promesse concernant la venue du Sauveur. 4000 ans. C'est le temps que Dieu a pris pour accomplir cette promesse-là. Mais il savait, depuis le commencement, le moment exact où cela arriverait. Il le savait. Personne d'autre n'aimé le savait. Il a simplement dit que cela arriverait. Et quand cela est arrivé, les gens étaient dans une illusion si grande qu'ils n'ont pas su comment accepter cela. Si ce n'est pas la même chose qui s'est de nouveau répété. C'est ce qui se fait toujours. Ça n'est mis failli jamais. De deux côtés. Toujours. Le Dieu de CET, âge mauvais 65-0801-167. Mais, dans l'obéissance, cette petite femme de foi, qui vit par la foi, l'épouse, la personne, ici, là, ici, quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe, dans quelque, croit la parole de Dieu. Elle est obéissante. Elle attend avec amour que la promesse de l'âge soit confirmée. Elle attend cela. Elle fait partie de cette parole. et elle attend que sa vie manifeste cette parole. Frère, vous le voyez? N'est-ce pas? J'espère que ça n'a pas passé au-dessus de vous. Le corps attend, s'estère à dire la parole, attend que la vie, s'estère à dire l'esprit, vienne la confirmer, ou lui faire prendre vie. S'estère ça qu'elle attend. Aucune autre vinémie peut agir en elle. Il n'y a aucun autre moyen, par lequel elle puisse prendre vie. Pourtant, elle perçoit que s'estère là, elle sait que ça va arriver, et puis voilà, ça arrive, et là elle se réveille. Dieu a dit, qu'il y ait, et elle Esther apparue, tout comme la première était apparue. Qui Esther celui-ci? Dîme 22 novembre 59 18 Qu'en serait-il si Abraham avait considéré l'apparence de la chose? Les 25 ans d'attente d'une promesse que Dieu lui avait faite? Eh bien, il n'aurait jamais eu le bébé. Il n'aurait jamais été le père du petit Isaac. Mais il crut la parole de Dieu et Néhémie la lâcha pas. Par contre il l'arrosa jour et nuit, et fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Oh! Et quand Sarah disait, « Chérie, cela fait 25 ans depuis que la promesse a été faite, voilà que j'ai, presque 100 ans. » Il disait, « Dieu soit loué, nous allons la voir de toute façon, car Dieu l'a dit, et cela règle la question. C'est Esther juste. Il connaissait la nature de Dieu, parce qu'il était un ami de Dieu. Il savait comment le prendre, parce qu'il savait que ses promesses, peu importe combien elles paraissaient ridicules, ou combien elles paraissaient naïves, ou combien elles paraissaient déraisonnables, elles étaient vraies, puisque Dieu l'avait dit, et cela réglait le problème pour toujours. C'est Esther ce que fait chaque semence d'Abraham aujourd'hui. C'est Esther ce que fait le chrétien né de nouveau aujourd'hui. Peu importe ce que le monde déclare, ce que la science déclare, ce que les gens disent, ceci et cela, la parole de Dieu se tient au-dessus de tout. Et les gens considèrent sa parole et ce qu'il a dit comme étant la vérité. Cela Néhémie change rien. S'ils disent aujourd'hui que le mont Néhémie peut pas être brûlé, et que les morts, ou que les corps Néhémie peuvent pas ressusciter. Dieu l'a dit, et Esther la vérité. Cela règle la question pour toujours. Dieu l'a dit, et nous gardons nos yeux sur ce qu'il a dit. Conduit par l'Esprit Mars 7 avril 59-10. Si vous faites une promesse à quelqu'un, vous êtes lié à cette promesse. Et si vous êtes un homme ou une femme d'honneur, vous ferez tout votre possible pour tenir cette promesse. Mais quelque chose peut arriver et vous empêcher de la tenir. Mais savez-vous que Dieu est lié à ses promesses plus que vous envers les vôtres? Quand Dieu fait une promesse, il doit la tenir pour rester Dieu. Chaque promesse qu'il fait est vraie. Et il est lié à cette promesse. Si vous gardez cela à l'esprit, pendant que vous passez dans cette ligne de prière ce soir, quelque chose vous arrivera. Savoir que Dieu Néhémie peut pas faire une promesse et manquer de s'y attacher. Absolument. Et il connaît tout. Il est donc infini. Nous sommes limités et nous pouvons faire une promesse et être obligés de la retirer. Mais l'ennemi ne le peut pas, car il est parfait. Il connaît tout, la fin depuis le commencement. Il doit donc tenir sa promesse. Et il a toujours quelqu'un qui croira cela. Ô Dieu, que je sois l'un de ceux-là. Peu importe à quel point on doit être critiqué et raillé, laissez-moi croire la promesse de Dieu et m'y accrocher. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, novembre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.